100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. En pleine crise séparatiste, l'Ukraine a donc dit non au passé et oui au rapprochement avec l'Europe. Place maintenant au nouveau gouvernement et à un Parlement recomposé. Suite aux élections de dimanche, la moitié des députés de la Rada sont des nouveaux entrants. Un nouveau souffle qui peut se résumer par un parti qui vient de voir le jour, Samopomitch, qui veut dire « aide-toi toi-même », est composé essentiellement de jeunes militants de la société civile et de combattants revenus du front de l'Est. Il a obtenu 13% des voix, ce qui en fait le troisième parti au Parlement. Ses membres espèrent lutter contre la corruption, renouveler la politique, réformer la justice et la défense. Bref, leurs espoirs sont immenses, tout comme les attentes des citoyens. À Kiev, Sébastien Gobert est allé les rencontrer.
Le QG de campagne est modeste, c'est le moins que l'on puisse dire. Les journalistes et observateurs s'entassent dans les couloirs d'un petit local, l'acoustique est mauvaise et aucun buffet n'est dressé. On est loin des grandes galeries d'art modernes louées pour l'occasion par le parti du bloc de Petro Poroshenko ou du buffet somptueux offert par le parti de Yulia Tymoshenko. À Samopomitch, on voit les choses en petit et on se concentre sur l'essentiel. Le chef du parti, c'est Andriy Sadovy, le très sobre maire de la ville de Lviv, capitale de l'ouest du pays. Son motto, c'est le progrès petit à petit.
Les gens veulent du changement, les gens veulent des réformes, les gens veulent qu'il y ait enfin des représentants décents au Parlement, des représentants libres. Les gens veulent soutenir des députés comme ça. Et si la classe politique avait prêté l'oreille à ces attentes de la population et avait su faire émerger de tels représentants, nous n'aurions pas de telles différence cardinale aujourd'hui au Parlement qui bloque les réformes nécessaires. Aujourd'hui, tout le monde en parle de ces réformes, mais peu agissent. Je pense que Samopomitch montre la voie.
Andriy Sadovy n'est que le numéro 50 de sa propre liste et n'a donc pas été élu comme député. Le maire de Lviv l'avait annoncé, il n'entend pas quitter ses administrés. À l'image du maire, Samopomitch se définit comme un parti de centre-droit avec une moralité chrétienne et un sens du bien commun. Après les excès de l'ancien régime de Viktor Yanukovych, avec un système de corruption endémique et dans un contexte géopolitique critique pour l'Ukraine, l'idée d'agir ensemble pour le bien commun séduit. Avec plus de 10% des voix, Samopomitch s'impose comme l'un des principaux partis dans le nouveau Parlement et comme un partenaire essentiel d'une coalition de gouvernement. La numéro 1 de la liste de partis, c'est Anna Opko, une militante civique, jusque-là directrice du Comité pour la réanimation des réformes. C'est tout aussi sobrement qu'elle commente le bon score du parti.
Ce résultat, c'est une victoire commune qui nous donne une responsabilité commune pour le futur du Parlement. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Samopomitch a ouvert la porte à des personnes compétentes et professionnelles afin que enfin le Parlement commence à travailler de manière professionnelle. Nous avons une opportunité unique de travailler et de légiférer au lieu de palabrer sans fin. Regardez Samopomitch, il n'est pas difficile de voir que ce n'est pas un parti qui cherche les effets d'annonce. Ces trois dernières semaines, pendant que nous étions en campagne à travers les régions du pays, nous avons constaté que les gens attendent de nous une pratique occidentale de la politique, un nouveau style de gouvernement.
Un programme politique basé sur les idéaux de la révolution de l'Euromaïdan et sur les réussites de l'ouest de l'Ukraine, où l'intégration européenne est bien plus avancée que dans le reste du pays. Samopomitch n'est cependant pas un parti de l'ouest de l'Ukraine. Il a conquis plus d'un million d'électeurs à travers le pays et a d'ailleurs été le premier parti à Kiev, la capitale. On peut ainsi dire que le maire de Lviv a remporté la ville de Kiev. Ce qui a fait le succès du parti, c'est la composition de sa liste, considérée comme une des plus équilibrées et des plus transparentes de la campagne. Samopomitch n'est pas le seul parti à avoir recruté des militants civiques ou des militaires, mais aucun des candidats n'a jamais siégé au Parlement et peu d'entre eux ont une carrière politique. Sur la liste de Samopomitch, chaque candidat a son centre d'intérêt et son rôle. Ihor Sobolev, numéro 13 de la liste, est chargé de réformes en profondeur de l'administration, notamment l'exclusion de ses membres les plus corrompus.
Pour avoir un système judiciaire efficace, il nous faut créer un bureau du procureur et des tribunaux efficaces et justes, ce qu'on n'a pas en ce moment. Nous avons déjà une loi anticorruption au sein de l'État. Il faut l'appliquer. On peut réformer les organes de sécurité, la police, mais ce n'est qu'avec un bon système judiciaire que l'on garantira nos progrès sur le long terme. Et ensuite, on réfléchira aux manières de réformer notre administration.
Samo Pomić devrait prendre part à la coalition gouvernementale qui se dessine au Parlement. Mais on peut d'ores et déjà déceler des positions spécifiques au parti. Le numéro 2 de la liste, c'est Semen Semenchenko, le commandant du bataillon de combattants volontaires pro-ukrainiens Donbass. Après que son groupe a été largement décimé lors d'une bataille pendant l'été, il a décidé de s'engager en politique. Mais pour qu'il accepte de travailler avec les autorités existantes, il faudra remplir certaines conditions.
Pour moi, il est essentiel de réformer les organes de sécurité et de défense de l'État. C'est très important parce que nos hommes sur le front, mais aussi les citoyens, souffrent de leur manque de professionnalisme. La priorité, c'est la fiabilité de ces organes, le remplacement des cadres, le renouvellement des missions de la police et du ministère de la Défense. Il ne faut pas oublier que l'État, ce sont avant tout les citoyens et les patriotes. Jusqu'à présent, les militants civiques, les citoyens qui fournissent un soutien financier, les volontaires, ont fait ce qu'ils ont pu dans cette guerre. Et ils l'ont fait mieux que les militaires professionnels.
Comme tout nouveau venu politique, il faudra attendre de voir si Samo Pomić peut concrétiser ses idées. Mais d'ores et déjà, son arrivée au Parlement marque une étape fondamentale dans la redéfinition de la manière de penser la politique en Ukraine.
Et à noter que dans ce nouveau Parlement, 27 sièges restent vacants. Ce sont ceux de la Crimée, annexée par Moscou, et ceux de l'Est du pays, qui organisera son propre scrutin législatif dimanche prochain, le 2 novembre.
Portrait.
C'est la fête nationale aujourd'hui en République tchèque et pour l'occasion, Sir Nicholas Winton, citoyen britannique de 105 ans, va recevoir la plus haute distinction de l'État. Ce juste a sauvé à Prague la vie de plusieurs centaines d'enfants et d'adolescents juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Portrait signé Alexis Rosenzweig.
669, c'est le nombre exact d'enfants sauvés par Nicholas Winton. Il a aujourd'hui 105 ans et les Tchèques ont tenu à rendre un hommage exceptionnel à celui surnommé le Schindler britannique. Né à Londres de parents juifs allemands, le jeune Nicholas entame une carrière dans la finance et rien ne semble le prédestiner à devenir un héros. C'est en 1938 qu'il rejoint un ami à Prague et comprend, après la nuit de cristal, qu'il est urgent d'agir pour sauver ceux directement menacés par la barbarie nazie. Il met alors toute son énergie dans l'organisation de convois ferroviaires qui vont permettre à ces centaines d'enfants juifs de rejoindre l'Angleterre et d'y trouver des familles d'accueil. Le 9e et dernier train, au début du mois de septembre 1939, ne pourra partir car la guerre vient officiellement d'être déclarée. Les 250 potentiels passagers seront déportés avec leurs familles dans des camps de concentration. Nicholas Winton s'engage par la suite dans la Royal Air Force et une fois la guerre terminée, il ne parlera pas de ses activités humanitaires. Ce n'est qu'en 1988, 50 ans plus tard, qu'une émission télé de la BBC revient sur ce chapitre oublié et l'invite sur le plateau en présence de plusieurs de ses enfants sauvés in extremis et devenus adultes. Le petit homme ne peut retenir ses larmes derrière ses grosses lunettes. Une dizaine de ces adultes devenus des seniors seront également présents aujourd'hui au château de Prague en ce jour de fête nationale pour le voir décoré de l'ordre du Lion Blanc. Déjà décoré par Václav Havel en 98, Sir Nicholas Winton reste un des héros de l'histoire moderne pour des Tchèques qui ont déjà lancé plusieurs initiatives en vue de lui faire attribuer le prix Nobel de la paix.
Europa.
On finissait par ne plus y croire, mais les pays de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord sur un programme pour lutter contre le réchauffement climatique dans les prochaines années. Un bon point qui place l'Europe en modèle, mais est-elle vraiment si exemplaire? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors les objectifs que se sont fixés les Européens pour faire face au réchauffement climatique sont-ils vraiment si ambitieux?
Les mouvements écologistes disent que non. Pour les Amis de la Terre, par exemple, ils sont bien en deçà de ce qui devrait être fait par l'Europe pour combattre le changement climatique. Pourtant, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne montrent indéniablement l'exemple avec cet accord, alors qu'au niveau international, rien n'avance vraiment. car le dernier sommet de la Terre à Rio de Janeiro, il y a 2 ans, a été un échec, notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui, selon les experts, devrait doubler d'ici à 2050 si on ne réagit pas rapidement. Face à cette urgence climatique, les dirigeants européens se sont donc mis d'accord de leur côté pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% en 2030 par rapport au niveau de 1990. Dans le même temps, la part des énergies renouvelables devra, elle, être portée à 27% du mix énergétique et la consommation d'énergie devra être réduite de 27%. Il est vrai qu'au grand dam des ONG, ces 2 derniers objectifs ne sont pas contraignants.
Mais l'Europe s'était déjà fixé des objectifs spécifiques pour 2020. Seront-ils, eux, remplis dans ce délai ?
Oui, vous faites référence aux objectifs 3x20 décidés en 2007, qui sont à plus brève échéance, mais moins ambitieux. D'ici à 2020, l'Europe s'était alors engagée à 20% d'économie d'énergie, à 20% de réduction des émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre, et à porter à 20% la part des énergies renouvelables. Concernant les économies d'énergie, cet objectif ne sera probablement pas atteint dans 6 ans. En France, c'est néanmoins une des priorités de la loi sur la transition énergétique de Ségolène Royal qui vient d'être votée. Mais faire des économies d'énergie coûte cher et partout en Europe, les gouvernements rechignent à accorder de nouveaux avantages fiscaux vraiment incitatifs, notamment pour mettre aux normes l'isolation des bâtiments. Concernant les émissions de CO2 par habitant, on avance, certes à petits pas, mais on avance. Ainsi, pour l'ensemble de l'Union européenne, on est passé de 8,5 tonnes en 2000 par habitant à 7,2 tonnes aujourd'hui. Sur une plus longue durée, on s'aperçoit que si certains pays ont fait de réels efforts, d'autres ont continué à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, de 1990 à 2012, les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement montrent que les 3 pays baltes sont de loin les pays les plus vertueux, avec une réduction comprise entre 53 et 58% de leurs émissions. Il faut dire qu'ils étaient des champions en matière de pollution à cette époque. En Europe occidentale, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne qui progressent le plus, avec une baisse de 25%. Mais la France et l'Italie n'ont réduit leurs émissions que de 11% et les Pays-Bas de seulement 9%. Il y a bien pire, puisque les émissions ont au contraire augmenté de 14% au Portugal et de 22% en Espagne.
Et concernant les énergies renouvelables ?
Pour les énergies renouvelables, on avance beaucoup plus vite. L'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse se sont développées relativement rapidement en Europe. Ainsi, entre 2004 et 2012, la part des énergies renouvelables par rapport à la consommation totale a augmenté fortement en Suède, où elle est passée de 39 à 51%, au Danemark de 14 à 26% et en Autriche de 23 à 32%. En France, la prédominance du nucléaire a sans nul doute été un frein majeur au développement de l'énergie verte, qui n'est passé dans le même temps que de 9,3 à 13,4%.
Et on cite souvent l'Allemagne en exemple pour l'énergie verte, ça se confirme ?
C'est vrai, l'Allemagne a fait des efforts considérables ces dernières années. La part du renouvelable est passée de 6 à 13% en 8 ans. Cependant, le pays des grosses et puissantes berlines freine sur les normes anti-pollution automobile. De plus, si l'Allemagne a mis le paquet pour l'énergie solaire et dans une moindre mesure pour l'énergie éolienne, sa consommation énergétique reste élevée. Et depuis l'abandon programmé du nucléaire outre-Rhin, les émissions de CO2 dues au charbon augmentent de nouveau.
Et pour conclure, les objectifs européens peuvent-ils avoir valeur d'exemple pour l'ensemble de la planète ?
L'Europe doit être au moins une référence pour convaincre la Chine, les États-Unis et d'autres de prendre des mesures réellement à la hauteur de ce défi mondial du changement climatique. Nous sommes à un point de non-retour, c'est l'urgence mondiale. Cela donne à la France une responsabilité encore plus grande pour parvenir à un succès lors de la conférence climat qui se tiendra à Paris l'année prochaine.
Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Les terres agricoles hongroises aiguisent les appétits de nombreux investisseurs, d'autant que les subventions européennes qui s'élèvent à 300 euros l'hectare peuvent être une très bonne affaire même si l'on n'est pas agriculteur. L'Union européenne s'en est émue, elle met en demeure le gouvernement de s'expliquer sur la loi sur la terre. Elle ne permet plus aux étrangers d'acheter des terrains en Hongrie, mais elle permet en revanche d'expulser des locataires de longue date. C'est ce qui est arrivé à la ferme de Kisantos, située à 2 heures de route au sud de Budapest. Une ferme pourtant pionnière dans le biologique, remerciée par l'État du jour au lendemain. Florence Labruyère s'est rendue sur place.
Ça, c'est une rose bouton d'or, magnifique. Là, on a des plantes médicinales, on a toutes sortes de menthes et plusieurs variétés de roses, de parfums, de couleurs.
Eva Hatch est fière de ce jardin que les écoles viennent souvent visiter. Il fait partie de la ferme de Kisantos dont elle est directrice. Cette ferme écologique unique en Hongrie a été créée il y a 22 ans par l'État hongrois. L'Allemagne a cofinancé le projet et a donné 600 000 Deutschmark à l'époque. La ferme est spécialisée dans la culture de semences biologiques, du blé, du lin ou du maïs 100% bio vendu dans toute l'Europe. Avec l'argent, Kisantos finance un centre de formation populaire sur le développement durable. Attila Ercsey est architecte et spécialiste du développement durable. Il vient plusieurs fois par an à Kisantos. Il anime des ateliers gratuits pour les habitants de la région.
Aujourd'hui, j'ai parlé des maisons autosuffisantes en énergie. J'ai expliqué comment mieux gérer l'eau, comment installer des panneaux solaires et des toilettes sèches. Les gens qui viennent ici ne sont pas des experts et j'explique de manière à ce que tout le monde comprenne.
Kisantos cultivait 400 hectares, mais la ferme a perdu ses terres. Eva Hatch, sa directrice, raconte.
On louait des terres qui appartenaient à l'État, mais notre bail s'est terminé en octobre dernier. L'État a remis les terres en location par un appel d'offres. Mais dans cet appel d'offres, il n'y avait plus l'obligation de cultiver le sol en bio. C'est une sale affaire, je ne veux même pas en parler. Mais le résultat, c'est qu'on a perdu nos terres.
La ferme de Kisantos s'est portée candidate pour relouer les terres, mais elle n'a pas reçu un seul centimètre carré. Pourtant, les fermes écologiques et les centres d'enseignement ont un droit de préemption d'après la loi. Les terres ont été louées à des grands fermiers ou à des industriels qui ne travaillent pas dans l'agriculture mais qui sont proches du pouvoir. Alors Kisantos a porté plainte. Mais avant que la justice se prononce, les nouveaux locataires sont venus détruire les récoltes de Kisantos. Katalin Rodic, membre de Greenpeace, était sur place.
Avec leurs tracteurs, ils ont détruit toutes les récoltes plantées par Kisantos. Nous, à Greenpeace, on a décidé de ne pas chercher l'affrontement. Il y avait des vigiles armés, une douzaine de tracteurs, et puis la police. Mais ce qu'ils ont fait est totalement illégal. S'ils avaient attendu la décision de la justice, ils auraient peut-être gagné. Et ils auraient ramassé cette récolte, qui avait beaucoup de valeur. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'est détruire.
La dernière fois que ce genre de choses est arrivé, c'était au Moyen-Âge, quand l'armée turque détruisait les terres de l'ennemi. Eh bien ici, on est revenu à ce temps-là.
Eva Hatch, la directrice de la ferme écologique, et l'organisation Greenpeace ont porté plainte contre l'État hongrois. L'État ne respecterait pas ses engagements envers l'agriculture biologique. Le ministère de l'Agriculture n'a pas répondu à notre demande d'interview. En attendant l'issue de la douzaine de procès en cours, le centre de formation de Kisantos continue. Mais jusqu'à quand ? La ferme écologique n'a plus de revenus. Son avenir semble compromis.
Et il y a quelques jours, les nouveaux locataires ont répandu des pesticides sur les terres. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado avec le soutien de l'Union européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. À demain.